RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
En France, une partie de la population demeure en marge des systèmes de santé, particulièrement les personnes en situation de précarité. En cause, des difficultés économiques, sociales et parfois administratives, des obstacles considérables pour bénéficier des soins nécessaires, tant sur le plan physique que mental. Une situation préoccupante, d'autant plus que la précarité tend à exacerber ces problèmes de santé. Alors qu'est-ce qu'on constate vraiment sur le terrain? Comment accompagner ces personnes et faire en sorte qu'elles accèdent aux soins? On va regarder ça de plus près avec nos invités. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez connu vous-même la rue, la précarité, que vous avez rencontré des difficultés pour accéder aux soins, venez témoigner, parlez-nous de ces difficultés puis de l'aide peut-être que vous avez trouvé à un moment avec des associations que vous connaissez. Même question si vous avez des proches qui connaissent cette situation. 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Une émission ce matin en partenariat avec l'Ordre de Malte France, une association qui agit pour accueillir, secourir et soigner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l'exclusion. On prendra une heure dans la seconde partie de l'émission pour évoquer toutes les actions de l'Ordre de Malte. Ce sera à 10h. En attendant, je vous présente nos deux invités pour cette première partie. Je commence avec vous, docteur François Lair, bonjour.
Bonjour Monsieur Gourmand.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Vous êtes médecin psychiatre, chef du service de l'équipe mobile de Paris Nord-Est. Ça fait partie du groupe hospitalier universitaire Paris, psychiatrie et neurosciences. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les missions de cette équipe mobile?
Oui, tout à fait. Alors, je tiens juste à préciser, je suis pas chef de service.
Je suis pas à jour.
Je veux pas contrarier, mais non, je veux pas contrarier mes collègues qui m'écoutent. Les équipes mobiles psychiatrie précarité, il y en a une centaine sur le territoire métropolitain et dans les DOM, sont des équipes qui ont été créées qui ont été pensées dans le courant des années 90 et qui ont été créées à la fin des années 90 ou sur la première décennie des années 2000 et qui ont vocation en fait à aller vers les gens qui ne sont pas en mesure de eux-mêmes se rapprocher des soins. Et donc ces équipes-là ont un rôle d'interface entre les associations, le tissu médico-social associatif des villes principalement, mais aussi parfois des territoires ruraux.
Oui.
Et les services qu'on appelle les services de droit commun, à savoir les centres médico-psychologiques et les services d'hospitalisation.
Ah ben c'est une bonne présentation. Merci beaucoup, docteur François Lair, d'être avec nous. À vos côtés, le docteur Patrick Fievet. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour, Melchior.
Bienvenue également à vous dans cette émission. Vous êtes médecin référent santé solidaire pour l'Ordre de Malte. Elle a plus de 1000 ans, cette association. Elle va avoir 1000 ans, en tout cas.
Alors oui, en effet, l'Ordre de Malte donc est une association qui est la plus ancienne association caritative, puisque son activité a commencé en 1048. Et donc son histoire est très complexe.
Hein. Oui.
Tout a commencé à Jérusalem et avec les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui avait pour vocation de prendre en charge les personnes en situation de détresse qui venaient faire un pèlerinage à Jérusalem, mais aussi les populations locales qui étaient également en grande difficulté. Et après les croisades, l'Ordre de Malte s'est retrouvé dans l'île de Rhodes. Et ensuite, dans l'île de Malte, pour y être chassé par les troupes de Bonaparte lors de la campagne d'Égypte. Et depuis cette époque, l'Ordre de Malte a repris une activité donc auprès des populations démunies. D'abord dans une activité de secourisme,
oui,
lors des conflits internationaux. Et puis, depuis maintenant 25 ans, une activité médicale pure auprès des personnes en grande précarité.
Et c'est à ce titre que vous êtes avec nous ce matin, docteur Patrick Fievet. On parle donc de l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, docteur Patrick Fievet, sur la pauvreté? J'ai dit en introduction que la pauvreté exacerbait ces problèmes de santé. Est-ce que c'est ce qu'on constate également?
Alors, en effet, le fait d'être en situation de précarité, à la rue ou dans des logements insalubres, met ces personnes en grande situation de fragilité par rapport à leurs problèmes de santé. Souvent, ce sont des gens qui ont perdu les codes fondamentaux qui structurent la personne, en particulier le rapport au corps. Et donc, il y a une certaine négligence de leurs problèmes de santé qui conduit souvent à des situations très évoluées que l'on malheureusement on découvre lorsqu'on fait nos maraudes ou lorsqu'on reçoit nos patients dans les centres de soins. Pour donner une idée de la gravité des choses, lorsque l'on vit dans la rue, l'espérance de vie est de 48 ans. On peut donner également un autre chiffre, c'est le nombre de personnes qui sont décédées, qu'on retrouve décédées dans la rue. 611 personnes en 2022, dont 5 enfants de moins de 5 ans. Donc voilà un petit peu la situation. Donc ces personnes sont dans le non-recours aux soins, soit parce qu'elles n'ont plus de couverture médicale, ou qu'elles n'ont jamais eu, soit qu'elles ont une telle pauvreté ou sont dans une telle situation de détresse qu'elles sont dans l'incapacité de se rendre dans les institutions pour obtenir les soins auxquels elles peuvent prétendre.
Dans l'incapacité et peut-être aussi dans le déni, docteur François Lair, est-ce que c'est ce que vous avez pu observer, vous, au sein de l'équipe mobile ?
La question du déni, c'est un élément qui est forcément assez central. Alors, principalement dans la population dite en grande précarité. Et là, oui. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est au-delà de la précarité, c'est la grande précarité, voire l'exclusion. L'accès aux soins, je pense que c'est une question cruciale aujourd'hui pour l'ensemble de la population, mais a fortiori pour les gens qui sont les plus éloignés justement du cœur du réacteur, de la société, celles qui sont en marge. Et je souscris totalement à ce que dit mon confrère, le docteur Fievet, c'est que il y a un rapport qui est assez étroit entre les conditions de vie et la santé des personnes. Et ce qu'il indiquait sur cette désarticulation, en quelque sorte, ce découplage entre la conscience ou l'esprit et le corps, avec parfois des comportements ou des existences qui sont empreintes d'abandonnisme, d'abandon. C'est quelque chose qu'on relève assez fréquemment. Ouais.
Et notamment, vous, en ce qui vous concerne, plutôt les troubles psychologiques, puisque vous êtes médecin psychiatre, donc vous êtes vraiment orienté sur ce volet-là. Ça va de pair avec, alors c'est un peu bizarre comme question, mais avec les problèmes de santé physique.
Oui, évidemment. Je dirais pour plusieurs raisons. Il y a forcément des comorbidités associées. Les conditions de vie sont forcément impactantes. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question?
Les liens entre santé physique et santé psychique.
Oui. Ce qu'on constate, nous, c'est que les gens qui, généralement, sont dans une forme de déni, des troubles assez importants, au bout d'un moment, abandonnent sans doute leur corps. Il y a quelque chose qui relève de l'effacement, à la fois sur le plan du cognitif, sur le plan des affects et sur le plan du corps. Et à un moment, quand on est dans un degré de précarité trop important ou un degré de souffrance ou d'exclusion, une des modalités défensives qui se met en œuvre assez généralement, c'est l'oubli de soi. Il y a quelque chose qui vient s'effacer, qui vient s'oublier chez la personne, qui vient s'éteindre. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on constate, c'est que les personnes qu'on nous signale sont assez fréquemment dans des états pathologiques, autant sur le plan de la santé mentale, ouais, que sur le plan physique, extrêmement avancés. Et quand on signale ces patients-là aux équipes, à nos équipes, aux équipes mobiles psychiatrie précarité et à toutes nos collègues qui travaillent eux plus dans le champ corporel, le champ somatique, c'est vrai qu'on a toujours tendance à distinguer la question du corps et la question de l'esprit alors que ce sont deux entités qui sont étroitement liées. Quand on nous signale ces personnes-là, généralement, je ne veux pas dire qu'il est trop tard, mais en tout cas, il est tard. Il est déjà tard et donc notre intervention, elle intervient pas toujours au bon moment. Et dans ces cas-là, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, hein, on travaille avec la volonté qui est la nôtre, mais en tout cas, on intervient assez régulièrement sur des personnes dont les situations à la fois somatiques et psychiques sont assez avancées. Et donc, la question de l'accès aux soins et la question du soin est d'autant plus laborieuse.
Docteur Patrick Fievet, si on va justement un peu plus dans le concret, quelle pathologie on voit dans la rue, on observe chez les personnes en situation de précarité?
Alors donc ça c'est sur le plan somatique.
Oui.
On observe des pathologies qui sont en lien direct avec les conditions de vie. Hein. Donc lorsque l'on vit à la rue, on est exposé aux intempéries, donc on rencontre très volontiers des pathologies infectieuses pulmonaires ou ORL. On rencontre aussi beaucoup de problèmes dermatologiques, puisque ces personnes sont au contact d'autres personnes qui elles-mêmes sont porteuses de parasites, hein, de poux, ou sont atteintes de la gale, par exemple. On voit beaucoup de problèmes également de pieds qui sont volontiers malmenés dans des chaussures qui sont absolument pas adaptées, des vêtements qui sont pas changés, et les conditions d'hygiène font que ces pieds vont s'infecter, et on découvre souvent en examinant les patients, en leur demandant s'ils ont des problèmes de pieds, et si l'on regarde, on découvre parfois des lésions vraiment très importantes.
Oui.
Après, souvent, on observe des problèmes rhumatologiques qui sont là aussi liés au fait que les personnes dorment à même le sol et qu'ils sont souvent amenés à porter des charges très lourde et à transporter tous leurs effets personnels en permanence. Donc voilà un petit peu les pathologies qu'on rencontre. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est que
la médecine... Ça, c'est ce que vous avez pu observer, vous, sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a des études, vraiment, autour de ces pathologies de la rue, je mets des guillemets?
Oui, alors justement, j'allais y venir. Hein, il y a très peu de choses, en fait. Il y a très peu d'études qui ont recensé les pathologies des personnes en grande précarité. Et ça fait partie de nos objectifs à l'Ordre de Malte, c'est d'essayer de définir le spectre des pathologies de ces personnes, justement pour pouvoir répondre de façon de la manière la plus adaptée à leurs besoins.
Il est 9h16 dans Je pense donc j'agis, vous l'entendez ce matin, on parle de l'accès aux soins des personnes en situation de grande précarité, d'exclusion, avec nos deux invités, et bien sûr avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Si vous avez vous-même connu la rue, que vous avez rencontré des problèmes pour accéder aux soins, venez témoigner, nous raconter vos difficultés, dites-nous comment peut-être vous avez été aidé, comment vous êtes allé chercher de l'aide. 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec le docteur Patrick Fievet, médecin référent santé solidaire pour l'Ordre de Malte-France, dont nous sommes partenaires pour cette émission, et le docteur François Lair, médecin psychiatre et membre de l'équipe mobile de Paris Nord-Est. Alors, même question pour vous, docteur François Lair. Quelle pathologie psychologique on observe chez les personnes de la rue?
Bah, ce que je peux dire pour faire écho au docteur Fievet, c'est qu'il y a assez peu d'études sur le plan psychique également. Ouais. Il y a une étude sur laquelle on se base toujours aujourd'hui, qui date de plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle l'étude Samantha, qui montre que à la rue, la prévalence des troubles psychiques, donc caractérisés voire sévères, est nettement plus importante. On est à cette époque, hein, les chiffres valent ce qu'ils valent, mais on était autour de 30%, alors qu'en population générale, on est sur des chiffres nettement inférieurs. Sur les pathologies qu'on rencontre à la rue, je dirais qu'aujourd'hui, nous, on s'occupe de deux populations assez distinctes, même si encore une fois, cette distinction, elle n'a pas toujours lieu d'être. Mais il y a une population qui se situe plutôt dans des dynamiques d'exclusion. Donc c'est la population qui relève plutôt du sans-abrisme, oui. Sont ce qu'on appelle assez maladroitement parfois les SDF, et qui, eux, vont présenter des pathologies parfois avancées, qui peuvent relever de la psychose, des troubles délirants, des troubles de l'humeur, de dépression sévère, de mélancolie, de choses comme ça, avec assez généralement des comorbidités. Là, on se situe dans des états psychiques et des états pathologiques, parfois, voire même souvent, assez avancés. L'autre population...
Ça veut dire quoi, assez avancé? C'est peut-être un peu dur de comparer, mais ça permet de donner vraiment une idée.
Bah, je pense que le terme que vous avez employé au début de l'émission, celui de déni, oui, est assez lié justement à l'avancement des troubles. Parce que ce qui permet de rattraper en quelque sorte ou de réparer comme on peut une situation, c'est justement de pouvoir travailler avec la personne à un moment, lui faire prendre conscience que quelque chose ne va pas, pouvoir faire une forme d'éducation thérapeutique. Et nous, en faisant un pas vers elle, essayer conjointement qu'elle fasse un pas vers nous et qu'elle puisse à un moment regagner les soins. Pour reprendre le fil de mon propos, l'autre population dont on a la charge aujourd'hui, ça c'était pas forcément prévu dans le cahier des charges des EMPP, c'est la population migrante. Là on est dans d'autres dynamiques. C'est généralement des gens qui sont structurés différemment, qui ont des histoires infantiles qui sont assez différentes, qui ont connu, je veux pas généraliser à outrance, mais qui ont connu des traumatismes un petit peu plus tard et dont l'accès aux soins est plus facile puisque assez généralement cette population-là est en mesure de formuler une demande d'aide. Entre ces deux populations-là, on a toute une zone grise qui est marquée par des gens qui sont en France sur notre territoire depuis longtemps et qui vont développer au gré de traumatismes qui se répètent, d'expériences de rejet auprès des instances, des institutions, de prises en charge sociales qui sont parfois difficiles ou incomplètes, vont développer des troubles qui vont appartenir au registre plutôt psychiatrique. Hein. Ouais. Dans le premier cas de figure, on parle vraiment de psychiatrie. Dans le second cas, on va plutôt parler de souffrance psychosociale, même si la réponse est parfois psychiatrique, hein, avec la mise en place de traitements. Mais voilà, on travaille dans un spectre de pathologies qui est extrêmement large, qui convoque à la fois les troubles psychotiques, les troubles délirants, la schizophrénie, les troubles schizoaffectifs, les troubles de l'humeur, et de plus en plus les syndromes de stress post-traumatique, les troubles anxieux, les troubles dépressifs.
Alors oui, j'utilise un mauvais mot, j'ai dit pathologie psychologique, on utilise plutôt pathologie psychiatrique, hein, c'est ça Je me tourne vers le psychiatre.
Bah, oui, sans doute que le terme pathologie va plutôt avec la psychiatrie. Mmh. Après, du côté de la psychologie, on parlera sans doute plutôt de souffrance, de mal-être. Ça me choque pas, mais en effet, oui, le terme pathologie va peut-être plutôt du côté de la psychiatrie.
Mmh. Docteur Patrick Fievet, une fois qu'on a dit tout ça, comment on détecte vraiment, comment on va à la rencontre de ces personnes en situation de précarité et comment on va établir un diagnostic?
Alors, à l'Ordre de Malte, on fonctionne avec deux types de structures médicales. Les équipes mobiles et les structures fixes. Donc, équipes mobiles sont donc des maraudes médicales ou des dispensaires itinérants. Donc, maraudes médicales, ce sont donc des équipes qui circulent donc dans la rue avec un véhicule qui est donc médicalisé et qui va permettre donc d'aller vers les personnes qui nous sont signalées ou qui permettent de découvrir au hasard des rues des personnes qui ont effectivement besoin de nos soins. Les dispensaires itinérants sont des véhicules plus importants avec des équipements plus lourds et qui vont se placer à jour fixe et horaire fixe à proximité des centres de distribution alimentaire où il y a en général un regroupement des personnes qui sont en grande précarité. Alors donc ça, ce type de d'unité mobile, on en a aujourd'hui 11 qui fonctionnent. Et puis parallèlement, on a également des structures fixes, donc des centres de soins qu'on essaye de placer là aussi dans des zones sensibles, de façon à ce qu'elles soient accessibles. Et donc on a aujourd'hui donc 14 centres de soins ou consultations dans des locaux qui sont mis à notre disposition.
Alors ça, on en parlera bien dans la seconde partie de l'émission à partir de 10h. Au niveau comment on évalue l'urgence de la situation?
Voilà.
Quand justement vous êtes vraiment en contact avec une personne.
Alors effectivement, la question pour nous, médecins, donc somaticiens, on va dire, c'est d'apprécier l'urgence de la situation.
Ouais.
En gros, il y a trois possibilités. La première, c'est l'urgence évidente et absolue. La situation, on est amené à rencontrer une personne qui est manifestement dans un état pathologique grave, qu'il va falloir traiter rapidement et qu'il va falloir éventuellement transférer donc sur un service d'urgence. Et dans ces cas-là, on appelle le 15, mais parfois aussi, ça nous est arrivé sur des bronchites asthmatiformes assez sévères, de traiter immédiatement et de permettre d'améliorer le patient en allant le revoir ensuite, quelques jours après, pour s'assurer que ça se passe bien. La deuxième situation, c'est derrière une demande qui est formulée, c'est d'aller chercher une pathologie qui est négligé parce que la personne est dans le déni. Donc la personne fait une demande mais qui passe à côté de la réalité du problème. Donc il faut savoir interroger, éventuellement examiner. J'ai parlé des pieds tout à l'heure. Il faut savoir demander à la personne, mais vos pieds sont dans quel état? Les problèmes dentaires aussi sont extrêmement fréquents et parfois on découvre des abcès dentaires dont la personne n'en parle pas, alors que ça, pour nous qui ne sommes pas dans la rue, ce serait totalement insupportable. Et puis la troisième type de demande qui est moins urgente mais qui est quand même une demande qui doit être prise en compte de façon très sérieuse, ce sont des demandes de symptômes, je dirais, un peu anodins, du type j'ai souvent mal à la tête ou j'arrive pas à dormir.
Ça peut être ça peut être une forme de prise de contact. C'est pour peut-être alerter d'une détresse
Voilà. Ouais. Je pense que derrière le symptôme, qui paraît anodin, il y a en fait une demande. Une demande de contact dans une situation de détresse où la personne en fait réalise que ce qu'elle vit est insupportable et que sa situation va aboutir forcément à la mort et donc la demande est qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, quoi, pour me sortir de là, donc on est amené souvent à revoir ces personnes nombreuses fois, d'essayer de créer le lien et essayer progressivement de l'amener à une réinsertion si c'est possible.
C'est un appel au secours ?
Oui, tout à fait.
On peut vraiment qualifier ça comme ça. Est-ce que la démarche est à peu près la même, Dr. François Lair, pour l'équipe mobile de Paris Nord-Est ? En quelques mots, parce qu'il va falloir qu'on marque une petite pause.
Bon, je vais essayer de faire vite. Alors, ce que je peux dire, oui, la démarche est la même pour une partie de la population. Et sans lien, il n'y a pas de soins. Donc c'est vrai que parfois la demande peut être soit inopérante, soit masquée, fardée, et on est obligé de la faire émerger, ou on est obligé de la faire transparaître d'une manière ou d'une autre. Et s'il n'y a pas un lien qui est établi, on a du mal à travailler. Quand aucun lien ne peut s'établir, c'est là où malheureusement parfois on est obligé d'employer des moyens un peu plus psychiatriques, entre guillemets, comme les hospitalisations sous contrainte.
Et ça, on va continuer d'en parler dans quelques instants avec vous deux, docteur François Lair et docteur Patrick Fievier. On a plein de choses à se dire, avec également vos appels, vos témoignages au 04 72 38 20 23. Prenez la parole si vous avez connu la précarité, la rue, que vous avez rencontré ces problèmes d'accès aux soins. On a envie d'entendre vos témoignages au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense, donc j'agis. On évoque l'accès aux soins des personnes en situation de précarité avec nos invités. Avec vos témoignages également, si vous avez des proches qui ont connu cette situation, qui ont du mal à accéder aux soins, venez témoigner. Et puis, même question, bien sûr, si vous-même, vous avez connu cette situation. 04 72 38 20 23 pour venir discuter avec nous à l'antenne. Ou alors par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. décoration.
Stromae pour vous accompagner en ce jeudi matin. Santé.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Allez, toujours avec le docteur François Lair, médecin psychiatre, membre de l'équipe mobile de Paris Nord-Est, et puis docteur Patrick Fievet, médecin référent santé solidaire pour l'Ordre de Malte. Bonjour Julien.
Oui, bonjour. Écoutez, bravo pour votre émission qui m'intéresse, parce que j'ai un témoignage à apporter.
Oui.
Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer chez un prêtre d'une paroisse, personne, un SDF, qui souhaitait savoir s'il y avait un moyen d'avoir un couchage dans la paroisse, chez le curé. Et bon, il n'y avait malheureusement pas. Par contre, on était déjà en train de déjeuner, un groupe type Notre-Dame, et du coup, on l'a invité à déjeuner avec nous, chez le curé. C'était fait, il a mangé avec nous, il a pu témoigner un petit peu de ce qui lui arrivait, un accident de vie, puis la dégringolade vers l'alcool, la drogue, etc. Et puis il nous a laissé ses coordonnées. Moi j'ai demandé particulièrement ses coordonnées parce qu'il disait qu'il acceptait de faire des petits travaux chez les uns, chez les autres.
Oui. Et cette personne que vous avez rencontrée, Julien, est-ce qu'elle la rencontrait justement, c'est notre sujet du jour, hein, je le rappelle, mais des vrais problèmes d'accès aux soins dans la rue?
Alors, disons que c'est accès aux soins. Je ne sais pas. Par contre, il a pu maintenir une hygiène de vie importante. Il m'a raconté qu'il allait à la piscine du Rhône à Lyon pour se laver, profiter des douches. Il demandait au personnel s'il pouvait utiliser les douches pour se laver. Il était propre sur lui. C'était quand même un signe de quelqu'un qui faisait quand même attention à lui. Je ne sais pas s'il avait des pathologies particulières.
Mais il y avait une forme d'hygiène, et en tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir pris le temps de témoigner. Docteur Patrick Fievet, quand on a l'occasion, l'opportunité en tout cas d'avoir à proximité, alors des bains-douches d'ailleurs qui reviennent un petit peu, mais ça peut vraiment aider justement contre ces pathologies de la rue.
C'est parfaitement démontré que quand on dispose d'une douche et qu'on peut se doucher au moins une fois par semaine, on réduit de façon très significative le risque de parasitose, donc de gale, entre autres. Hein. Donc effectivement, c'est un point très sensible, très intéressant qu'a soulevé cet auditeur.
Oui, parce que c'est une bonne hygiène, docteur François Lair, est-ce que ça, alors là aussi une question un peu étrange, mais est-ce que ça aide psychologiquement à vivre, hein, tout simplement, à aller mieux, à aller bien?
Oui, oui, forcément. Les maladies ou les tableaux dont on parle là, c'est avant tout des pathologies de l'estime ou de la représentation de soi. Et c'est pour ça que c'est hyper important de garder ce cap-là, cet horizon, et d'essayer de maintenir un ordre en termes de représentation de soi ou d'estime de soi. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler avec ces personnes-là. C'est un processus qui est souvent lent, qui peut être assez laborieux, mais c'est vers ça qu'on tend. Ouais.
Lise nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Lise.
Bonjour, merci de me prendre. J'aimerais faire ce petit témoignage. Je sais que c'est axé plus sur la santé.
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui. Et voilà, bon, là, je pourrais peut-être parler de santé psychologique.
Oui.
Mais je me devais quand même de rendre cet hommage à l'équipe de Notre-Dame de Lorette. Donc, je vous explique. Je suis montée à Paris, j'avais 25 ans, c'était il y a 30 ans. Et je n'avais rien. Donc, j'étais pas à la rue, mais j'étais dans une chambre de bonne. Donc, il n'y avait pas de douche, les toilettes
sur le palier,
comme on connaît, oui, bien sûr. Et surtout, rien. Je n'avais pas un sou, je n'avais rien du tout. Et j'étais même pas chrétienne, j'étais pas spécialement croyante, mais j'habitais, du coup, le quartier Blanche, Pigalle. Donc, je suis allée à la chapelle de Saint-Rita, dans l'espoir, enfin, justement, en parlant de ma situation, Et j'ai rencontré des gens qui étaient extraordinaires, qui m'ont laissé avoir accès au téléphone dans leur bureau pour que je puisse passer des coups de fil. On n'avait pas les portables, hein, pour trouver du travail. Et pendant que je cherchais du travail, on m'a donné tous les jours un ticket pour aller dans les brasseries pour que je puisse manger à midi. Ça m'a sauvé la vie, hein, vraiment. Donc j'ai trouvé du travail. Et ensuite, ils m'ont pas lâché, ils m'ont visité dans ma chambre de bonne ensuite quelques semaines après pour voir si tout allait bien et m'ont donné encore
et ça vous a aidé. Ouais.
Mais ça m'a sauvé.
Alors, je suis désolé Lise, en fait c'est pas vraiment le sujet du jour et non pas que votre témoignage n'est pas intéressant et vraiment on est heureux d'entendre que vous avez pu vous en sortir, hein, y a aucun mauvais respect de ma part. Par contre, vous parliez de la santé psychologique. Là, ça m'intéresse un petit peu plus pour l'émission. Qu'avez-vous docteur François?
Si je peux rebondir sur le témoignage de Lise, parce que ce que j'entends Lise dans votre témoignage, c'est que ce qui fait souffrir le plus, c'est l'isolement.
Oui, et l'exclusion.
Ce qu'on constate, et l'exclusion. Et ce qu'on constate, c'est que des symptômes ou des formes de maladies plus avancées surviennent chez les gens qui, à un moment, s'isolent, pour une raison ou pour une autre. Soit parce que l'environnement le contraint, soit parce que, au bout d'un certain temps, c'est l'être au monde qui sont obligés d'adopter. Mais il y a vraiment une relation étroite. Et ça, c'est important de le dire, et c'est ce que j'ai cru entendre dans vos paroles, Lise, entre l'isolement affectif, relationnel, cognitif et la psychiatrie.
Oui, Lise, vous confirmez, c'était
absolument.
Vraiment...
Ouais,
pour vous, c'était de lutter contre cette forme d'exclusion.
Oui, alors j'ai eu quand même le réflexe, j'étais jeune, j'ai eu quand même le réflexe d'aller demander de l'aide, en fait. Mais effectivement, quand on est dans cette situation-là, on est totalement isolé, on est complètement... La rue, elle est tout près. Là, j'étais en plus dans un quartier Blanche-Pigalle, donc la prostitution, elle est tout près. Vous voyez, on peut basculer d'un instant à l'autre, d'une seconde à l'autre. Et si c'était ces gens-là de Notre-Dame, de la chapelle Sainte-Rita, ne m'avaient pas aidé, j'aurais basculé, sans aucun doute.
Merci beaucoup, Lise. Vraiment.
Je me devais de leur rendre hommage.
Vous faites bien et merci d'avoir pris le temps de témoigner dans Je pense donc j'agis. Oui, docteur François Lair, vous avez envie de réagir, je crois.
Oui,
encore.
Pour
c'est bien, ça donne du grain à moudre, c'est parfait.
Pour faire écho à l'hommage de Lise, moi, je souhaitais rendre un petit hommage à toute cette armée des ombres, parce que nous, on travaille avec. Des gens qui de l'associatif, du médico-social, qui ont des boulots souvent ingrats, des rémunérations qui sont souvent assez basses, et qui continuent de travailler parce qu'ils croient dans ce qu'ils font. Et je souhaitais leur rendre hommage parce qu'en fait, sans eux, nous, on peut pas travailler. C'est impossible. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est vraiment à souligner. Ils fournissent un travail qui est admirable.
Docteur Patrick Fievet, alors vous êtes dans l'ombre aussi, mais on vous donne un petit peu de lumière ce matin tous les deux, et notamment l'Ordre de Malte, parce que ça a vraiment énormément de sens. Je reviens juste sur Lise qui nous a dit, nous parlait de ce réflexe d'aller demander de l'aide. Vous, qu'est-ce que vous observez justement avec les personnes en situation de précarité, notamment personnes de la rue? Est-ce que ce réflexe, il est simple à avoir pour eux?
Alors ça dépend du niveau d'exclusion dans laquelle la personne se trouve, parce qu'on a des situations qui sont très très différentes. Hein. Une personne qui est en mesure effectivement de faire une demande parce qu'elle n'est pas encore en grande déstructuration, et puis à l'opposé, à l'extrême, il y a la personne qui est dans l'auto-exclusion, qui ne va plus rien demander, et qui est condamnée très rapidement d'ailleurs. Hein. Donc on voit, nous, malheureusement, des personnes jeunes qui sont dans un tel état de déstructuration, d'intoxication alcoolique, qu'on sait très bien qu'on ne pourra plus rien faire et qu'elles disparaîtront dans l'année qui suit ou dans les 2 ans qui suivent. Donc là, on fait de l'accompagnement. Mais donc, les personnes ne viennent pas forcément spontanément nous voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller les chercher. Moi, ce qui m'intéresse dans le témoignage de Lise, c'est qu'en fait, le problème des personnes qui sont dans la rue ou en grande exclusion, c'est qu'ils sont dans la non-existence. Et exister, c'est, on existe par le regard de l'autre. Donc on est des êtres sociables et on ne peut pas exister sans les autres. Donc il est très important de sortir de l'isolement et d'aller à la rencontre. Et quand les personnes ne sont pas capables de le faire, il faut que ce soit nous qui le fassions.
Cette non-existence, elle se traduit par quoi, docteur François Lerre, par une perte de rapport au temps, à l'espace, au code, à la société?
Oui. À tout ça, le docteur Fievé a utilisé un terme qui est celui d'auto-exclusion, qui est le grand cadre, nous, syndromique, qu'on utilise quand il s'agit de cette population-là. Alors, il y a aussi les termes désaffiliation qui peuvent être pertinents, c'est un synonyme. En fait, au bout d'un moment, c'est un peu contre-intuitif, mais quand on souffre à certains degrés, au bout d'un moment, on est obligé d'étouffer sa souffrance, on est obligé de la mettre de côté, on est obligé d'abandonner une partie de soi. Et l'exclusion passe par un effacement ou une extinction à la fois du registre affectif, on se met à moins ressentir la souffrance, on se met à moins la ressentir aussi dans son corps, dans sa chair, et c'est pour ça le docteur Fievé parlait tout à l'heure des pieds par exemple, mais ou des dents, mais pour nous c'est difficile de se représenter cette souffrance là, cette souffrance qui ne se manifeste pas, qui se manifeste autrement. Et puis, un effacement aussi au niveau relationnel. Il y a la vie qui s'appauvrit. C'est marrant parce que pour caractériser ce type de souffrance-là, qui est assez contre-intuitif quand on l'a jamais connu, la littérature des camps de concentration, du nazisme ou du soviétisme, est assez féconde. Et je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain qui s'appelle Varlam Chalamov, qui a connu la Kolyma. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Récits de la Kolyma. Et c'est un écrivain absolument majeur dans la littérature soviétique et même au XXe siècle. Et ce qu'il explique, c'est que à la Kolyma, où il est resté assez longtemps, il utilisait une dizaine ou une vingtaine de mots, pas plus. Alors qu'il est devenu, après, un écrivain majeur qui avait accès à un champ lexical absolument dantesque. Mais il y a quelque chose qui s'efface. Primo Levi donne des indications aussi dans le même sens. Il y a quelque chose qui s'éteint dans la souffrance, dans la manière de penser les choses. Et c'est des modalités, en fait, de protection, qui sont assez archaïques, qui se mettent en place et qui nous vont un peu nous contrarier pour justement accéder aux gens ou tenter de les soigner parce qu'ils ne demandent plus rien. Ils n'y croient plus.
Ouais. C'est un parallèle intéressant, ce que vous venez de faire, docteur François Lerre, parce que vous parliez plutôt de la Kolyma, cette région vraiment d'extrême-orient russe, et donc des camps un peu d'enfermement, les goulags et j'en passe, où la liberté n'était pas là. Pourtant, il n'y avait pas de liberté. Donc, comment on peut arriver à faire quand même ce parallèle entre les personnes qui vivent dans la rue en France, qui sont libres quand même, et puis ce que vous avez dit.
Pour être libre, il faut quand même, je suppose, un minimum de confort ou de bien-être. C'est à ce moment-là qu'on peut tomber dans ce que Sartre appelait l'existentialisme, c'est-à-dire choisir sa vie. Le docteur Fievé parlait de non-existence, mais on est là-dedans. Quand on est complètement régi ou étouffé sous des déterminants psychosociaux qui sont trop lourds, on n'est pas dans l'existence, on est dans une forme de non-existence. C'est Cartès qui parle de vie invivable, mais on est pleinement là-dedans. On n'est pas dans l'existence, on est dans quelque chose qui relève du biologique, en fait.
Si je peux intervenir...
Oui, bien sûr, docteur Patrick.
Xavier Emmanuelli, donc le fondateur du SAMU social et de Médecins sans frontières, a décrit... un syndrome qu'il appelle le syndrome de grande exclusion. Et ce syndrome de grande exclusion comporte trois types de composantes, quatre types de composantes, qui sont des pertes des codes fondamentaux qui structurent la personne. Le premier, c'est le rapport au corps. Le deuxième, c'est le rapport à l'espace. Le troisième, le rapport au temps. Et le quatrième, le rapport à autrui. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est là où on va se rejoindre, c'est qu'ils retrouvent ce syndrome non seulement chez les personnes qui vivent dans la rue, les grands exclus de la rue, mais il l'a retrouvé également quand il était médecin des prisons à Fleury-Mérogis. Il l'a retrouvé aussi chez des personnes qui étaient donc en milieu carcéral.
Et privées de liberté.
Et il l'a décrit aussi, il dit, mais on voit aussi la même chose chez les personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs graves, comme la maladie de Alzheimer. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ils ont défini, enfin, il l'a défini, vraiment une maladie, hein, qui est le syndrome de grande exclusion, et qui, en fait, se traduit finalement à la fin par la non-existence. Et donc, aujourd'hui, mais des gens meurent en moyenne à 48 ans de non-existence.
On est en train de peindre un tableau qui est quand même un peu sombre tous les trois. Pourtant, voilà, on est dans une émission qui s'appelle « Je pense donc j'agis ». Il va quand même falloir qu'on trouve des moyens d'agir ou en tout cas des choses un peu positives. Alors vous êtes très positif pour le coup parce que vous êtes vraiment au service de ces personnes en grande exclusion. Question, que fait le gouvernement pour aider ces personnes dans la rue au niveau de l'accès aux soins? Est-ce que il faut compter sur l'armée de l'ombre dont vous faites partie ou il faut en attendre un peu plus du ministère de la Santé, par exemple?
Alors moi je veux pas Docteur taper François sur Lair. Le ministère puisque oui. c'est mon employeur et j'ai un devoir de neutralité étant fonctionnaire. Ce que je peux dire c'est qu'il nous paye, il nous finance, c'est l'État qui a créé ces équipes là. Elles continuent de se développer, de se déployer sur l'ensemble du territoire, donc l'État ne fait pas rien. C'est l'État aussi qui subventionne une partie des associations du champ associatif. Après évidemment que c'est le constat suivant, c'est sans doute insuffisant puisque la précarité s'accroît d'une manière ou d'une autre et que alors je vais parler pour ma discipline, oui. j'ai pas un regard sur l'ensemble de la médecine, mais en tout cas la psychiatrie est en grande souffrance. Aujourd'hui, et notamment le service public psychiatrique, on est en difficulté pour trouver des lits d'hospitalisation, pour trouver des rendez-vous réguliers dans les CMP. Il y a, je pense, aussi une crise des vocations. C'est difficile. Enfin,
les CMP, c'est les centres médico-psychologiques.
Les centres médico-psychologiques. Nous, on est une discipline, la psychiatrie, qui est choisie parmi les dernières à l'examen classant national. Ouais. On n'est pas, c'est pas une discipline très à la mode dans les étudiants en médecine.
Christophe nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Mathieu.
On vous écoute, allez-y.
Pour répondre là aux dernières paroles qui ont été citées par le docteur, là, moi, il me semble que la psychiatrie a toujours été utilisée un petit peu comme un moyen d'évincer les personnes qui dérangeaient les bien-pensants ou qui pouvaient être placées sous des mesures qui permettaient d'empêcher leur action ou leur pensée ou leur parole sans jugement et sans procès de manière un peu arbitraire, voire totalitaire. Concernant mon problème, j'ai des droits qui ont été acquis, par exemple un droit de 115, qui est le droit des anciens combattants ou le droit des personnes blessées de guerre ou victimes de terrorisme. Et il me semble que l'administration a effacé ce droit. Et en finalité, moi, je me retrouve sans droit, sans possibilité de me soigner pour des blocages administratifs. Il me semble que les médecins feraient bien aussi de faire une analyse de nos systèmes politiques ou de l'articulation de nos systèmes sociaux. Vous parliez de l'armée des ombres ou le médecin parlait de l'armée des ombres. Il me semble qu'effectivement, le milieu social organise aussi une certaine paupérisation et une certaine précarité des populations. C'est l'échec de la gauche, à mon avis, au niveau,
oui. Au niveau écoutez,
social.
Christophe,
de la première est en finalité.
Je vois pas trop où vous voulez en venir, Christophe. Je suis désolé, j'arrive pas trop à comprendre votre témoignage. Peut-être que vous avez envie de réagir, docteur François Lair ou docteur Patrick Fievet. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Hein. Je vous manque pas de respect, Christophe, mais j'ai pas. Voilà,
beaucoup de matière pour. Voilà. Je rejoins les propos du docteur Lair. Le gouvernement. Oui. Fait quelque chose pour la précarité. Dans le domaine somatique, il y a les permanences d'accès aux soins de santé dans beaucoup d'hôpitaux. hein, qui sont destinés aux personnes qui n'ont aucune couverture sociale. Et donc, malheureusement, ces structures sont débordées. Elles rencontrent des problèmes financiers, elles n'arrivent pas à absorber toutes les demandes. Et justement, le rôle des associations, c'est de venir en aide, en soutien avec ces structures. Puis ces structures ont aussi une certaine rigidité. Et en fait, la population dont on doit s'occuper est une population très, 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 très disparate. Et il faut s'adapter à chaque situation. Enfin, il faut faire du sur-mesure, quoi. Et c'est là aussi toute la difficulté. Donc, l'intérêt des associations comme l'Ordre de Malte, c'est de pouvoir aller sur le terrain, de répondre aux demandes spécifiques de chaque personne. Et de les accompagner vraiment dans leur vie, dans leur parcours.
Docteur François Lair, pour réagir également
sur ce que disait l'auditeur.
S'il y a matière à réagir, bien sûr, ou sur ce que disait Patrick Fivet sur finalement les vraies difficultés qui peuvent régner au sein de l'administration, notamment dans le milieu social.
Sur ce que disait le docteur Fievé, en effet, il y a quand même une logique parfois de bricolage et d'adaptation. On est obligé de s'adapter constamment. Par exemple, le nombre de demandeurs d'asile est en augmentation en France. Une adaptation assez simple, c'est l'interprétariat. On n'est pas toujours en mesure de communiquer en français ou dans une langue commune. Nous, l'État... Sur le service public, hein, je parle pour le service public, l'État nous finance l'interprétariat. On est en mesure d'appeler un service d'interprétariat par téléphone. Après, c'est sûr que forcément, mes propos vont peut-être faire bondir une partie du monde associatif ou de mes collègues, mais c'est clair que c'est insuffisant. Mais je pense qu'il est quand même présent et ce bien précieux, faut qu'on puisse continuer à en prendre soin. Je veux dire, le service public, il n'est pas en mesure, en effet, en ce moment, d'absorber le nombre de demandes ou le volume de souffrances. Le docteur Fievé mentionnait justement les passes, mais ces passes, c'est un bien précieux à plein d'égards, à la fois pour les gens sur un versant humanitaire, mais aussi sur un versant santé publique. Il y a une logique de prévention, il y a une logique de soins de certaines maladies qui peuvent être potentiellement contagieuses. Ça permet d'apaiser des patients qui souffrent, etc. Donc tout cet arsenal-là, qui est à la fois composé du service public et du champ associatif, il faut absolument en prendre soin.
Docteur Patrick Fiévet, on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Peut-être une histoire à nous raconter, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué sur le terrain.
Ben oui, il y a une belle histoire que j'ai envie de raconter parce que ça va nous redonner peut-être un peu de morale.
Ah ben,
le moral après.
Il faut, on en a besoin.
Bon, donc on a suivi. Donc moi, je suis médecin bénévole aussi hein, dans le maraude médicale des Hauts-de-Seine et on a été amené à suivre une personne, une femme qui vivait dans une caravane. La première fois qu'on l'a vu, on a ouvert la porte de la caravane, c'était une puanteur épouvantable, une accumulation de déchets, la personne elle-même était alcoolisée, et donc elle se plaignait de douleurs abdominales, donc j'ai passé un certain temps à l'examiner, sans lui trouver grand-chose. Oui. Là encore, c'était peut-être une plainte, un au secours, hein, pour exprimer une détresse. Et puis, on l'a revu plusieurs fois. Hein, les équipes sont passées régulièrement. Et puis, il y a quelques mois, on a été appelé parce que la situation semblait beaucoup plus grave. Donc, le médecin de l'équipe a appelé le 15, a négocié le transfert aux urgences. Ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours accepté facilement. Et puis, en réalité, la personne s'est retrouvée aux soins intensifs puisqu'elle avait un réel problème. Et quand on en est sorti, notre médecin responsable des maraudes est allé voir le médecin de l'hôpital où elle était, en lui expliquant qu'il fallait absolument pas qu'elle retourne dans sa caravane parce que c'était la condamnée à mort et qu'il fallait trouver une solution. Donc D'abord et des soins de suite de rééducation et puis ensuite éventuellement l'EHPAD puisqu'elle avait plus de 70 ans.
Voilà, donc une aide vraiment importante, docteur Patrick Fivet. Pardon, je vous coupe parce qu'on arrive pour le coup à la fin de la première partie.
Alors juste pour terminer.
Oui. Alors en un mot, vraiment.
Ouais, voilà. Donc on a une personne qui maintenant est en EHPAD, qui n'est plus alcoolisée, qui revoit son fils qu'elle n'avait pas vu depuis 12 ans et qui demande des soins dentaires pour retrouver un visage correct.
Et ben c'est une belle histoire. Merci docteur Patrick Fivet. Merci docteur François Lair d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Et en effet, parfois ça marche.
Ça fonctionne et il faut garder espoir. Merci à vous. À tout de suite.